accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est un rêve de voyage d'été pour ceux qui peuvent voyager. Des eaux transparentes, des paysages somptueux et ces petits villages typiques. Après 6 mois de confinement, les îles des Cyclades en Grèce retrouvent les touristes, la vie presque comme avant. À Milos, l'une des îles les plus courues de l'archipel, ces 6 mois de restriction des libertés individuelles ont souvent été vécus très différemment par les habitants comparés à ceux des grandes villes comme Athènes. Un hiver à Milos, c'est un reportage de Joël Brenner.
Yona Plessa est sculptrice et c'est à la faveur d'un festival artistique qui a démarré sur l'île à la mi-mai, au moment même de la levée des restrictions de déplacement en Grèce, que la trentenaire est arrivée à Milos depuis Athènes. Pour elle, le contraste a été vertigineux.
En ce qui me concerne, j'ai passé un an dans mon appartement athénien et j'ai totalement respecté les mesures et tout ça. Et du jour au lendemain, je suis arrivée à Milos, une île où l'on vit à l'air libre. C'est comme si le coronavirus n'existait pas ici. On l'oublie d'une certaine manière, même si ça ne signifie pas qu'on arrête de faire attention, puisque nous sommes aussi venus avec des masques, des autotests. Mais en tout cas, ça a été très soudain. Je suis passée de mon appartement où j'avais peur, où je portais un masque tout le temps, même en compagnie de ma mère, à cet environnement si différent ici à Milos. Ça a vraiment été un choc.
Gérante d'un magasin de décoration à 2 pas du port d'Adamas, Eleni Zoulia est idéalement placée pour évoquer les différences fondamentales entre un confinement en ville et un autre sur une île, puisque son expérience personnelle a justement été scindée en 2, 3 mois à Athènes et 3 à Milos.
Ici à Milos, la situation était paradisiaque comparée à Athènes. À Athènes, avec ma famille, nous restions tous enfermés à la maison, sans rien faire. Mais alors, rien du tout. Ici, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, comme si la vie était normale. On se baladait, on faisait des courses, on voyait des gens. À Athènes, rien, parce que nous avions peur, très peur. Alors qu'ici à Milos, comme je viens de vous le dire, c'était le paradis.
Et pour cause, Milos a pour ainsi dire l'habitude d'hiberner. Les 6 derniers mois de confinement, essentiellement imposés hors de la période estivale, n'ont donc pas été ressentis de manière trop radicale par les habitants de l'île. Mère de famille albanaise, Espressa Souli est installée ici depuis 13 ans.
La vie sur l'île n'a pas été particulièrement difficile pendant le confinement, parce qu'ici c'est comme un village, on peut aller à la plage, aller se promener. La seule chose qui me rappelait vraiment le confinement, c'était les magasins fermés. Mais même cela, ce n'était pas un si gros changement, puisque pendant la saison hivernale, la majorité des magasins, à l'exception d'un ou deux, sont de toute façon fermés aussi. Au final, ici, ce n'était pas vraiment un hiver beaucoup plus difficile qu'un autre.
À tout juste 18 ans, Elisabeth abonde dans ce sens. D'autant que la vitesse de propagation du virus était bien différente entre les grandes villes grecques et les îles, bien moins densément peuplées.
Nous étions légèrement inquiets en règle générale, mais en même temps, au quotidien, nous ne l'étions absolument pas. Parce que nous vivons loin d'Athènes et de Thessalonique, où les cas de coronavirus étaient concentrés. À Milos, vous savez, je ne crois pas que cela ait changé quoi que ce soit. L'hiver, d'habitude, c'est comme si l'on vivait une situation semblable à une pandémie. On reste à l'intérieur. Il y a peu de magasins ou de restaurants où aller. Il n'y avait finalement rien de si inhabituel que cela pour beaucoup d'entre nous.
En ville comme sur les îles, une chose a pourtant fondamentalement changé pendant le confinement, l'école. Une école devenue virtuelle. Comme beaucoup de ses camarades de classe, Elisabeth n'a pas échappé au terrible ennui des cours en ligne.
Nous avions des cours en ligne. Enfin, disons que nous avons essayé d'en avoir. Je n'ai pas du tout aimé. Ça m'a rendue très paresseuse. Résultat, je n'ai pas du tout étudié. Ou disons seulement les matières qui m'intéressaient. Il n'y a pas de comparaison possible avec un vrai cours, une salle de classe, un professeur, etc. C'était intéressant de faire l'expérience, mais j'espère que tout cela va changer et non pas continuer comme ça.
À Milos comme ailleurs, la vie reprend progressivement depuis début mai. Et les touristes dont l'économie du pays est si dépendante sont à présent autorisés, s'ils sont vaccinés ou disposent d'un test PCR négatif, à venir profiter d'une part de cette liberté retrouvée, au moins le temps d'un été.
C'est C'est la Pologne qui accueille la première usine au monde de panneaux solaires en cellules pérovskites, une technologie novatrice. Pourtant, dans le secteur de l'énergie, Pologne est plutôt synonyme de charbon, mais l'énergie solaire y est en pleine croissance et les habitants aussi sont de plus en plus nombreux à installer des panneaux photovoltaïques sur leurs toits. Les subventions de l'État et un prix de l'électricité qui flambe convainquent de plus en plus de Polonais. À Varsovie, Sarah Bakaloglu.
Une église avec une croix en panneaux photovoltaïques, de plus en plus de toits recouverts de panneaux solaires. Cette énergie se développe très vite en Pologne. En un an, la capacité de production du pays est passée de 1,3 gigawatts à plus de 4 gigawatts, ce qui fait dire au gouvernement que c'est le secteur le plus dynamique parmi les énergies renouvelables. Et en Pologne, ce dynamisme est dû notamment aux micro-installations, pas seulement des fermes solaires donc, mais des équipements de puissance moyenne chez les particuliers. Le nombre de foyers avec des panneaux photovoltaïques a bondi. On en comptait 4000 il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils sont près de 450 000. Pourquoi ce secteur se développe-t-il si rapidement ? Eh bien, il n'est pas bloqué par des réglementations, comme cela a été le cas jusqu'à peu de l'énergie éolienne. Et puis, il y a des subventions de l'État polonais. La démarche est simple, en ligne. L'installation solaire devient assez rapidement rentable, car il y a surtout l'argument du prix. À cause de l'augmentation du coût des émissions de CO2 dans l'Union européenne, l'électricité provenant du charbon coûte de plus en plus cher, ce qui a des répercussions pour les consommateurs polonais, sans parler de la pollution qui peut être causée par ceux qui utilisent des chaudières à charbon. Si l'énergie solaire se développe, il faut quand même rappeler qu'elle reste très minoritaire dans le mix énergétique de la Pologne. Elle représente un peu moins d'1,5% de la production totale dans le pays. La Pologne est à la traîne dans l'Union européenne pour les énergies renouvelables, ce qui pourrait changer. C'est en tout cas ce qu'espèrent les écologistes. Le gouvernement a promis de sortir progressivement du charbon, de développer l'éolien, le solaire, mais aussi et surtout de miser sur l'énergie nucléaire en construisant la première centrale du pays.
Le projet Energy Independent Farming, en coopération avec l'Agence européenne de développement et les autorités régionales, permet à des fermiers britanniques de produire leur propre énergie. L'objectif, c'est l'autosuffisance énergétique, mais aussi la commercialisation à terme. La ferme de Chynoweth, au cœur des Cornouailles, est la deuxième à s'équiper de la nouvelle technologie nécessaire cet été. Marie Billon.
Sur la ferme de Jim, il y a plus de machines que d'animaux. Il a vendu ses 250 vaches l'an dernier. Ce n'est désormais que pendant l'hiver qu'il s'occupe de bovins. Il accueille les 130 génisses d'un fermier voisin dans son étable. Une étable pas comme les autres.
Dans le sol, il y a des fentes. Le lisier passe à travers, tombe en dessous et est collecté dans un réservoir. Un mécanisme hydraulique et la gravité font ensuite glisser le lisier jusqu'à la pompe qui filtre le tout pour l'envoyer le plus rapidement possible dans un immense bassin. Parce que ce n'est pas là qu'on veut produire du gaz, mais dans le bassin.
Jim enlève une plaque de métal au sol et regarde au fond du réservoir.
Là, on voit la surface du lisier et des bulles qui apparaissent. Ce sont des gaz d'origine biologique, un mélange de méthane, de dioxyde de carbone et de sulfate d'hydrogène.
Ce bassin est appelé un lagon dans l'industrie agricole, mais il n'a rien d'idyllique. Au contraire, c'est là que le purin des vaches est collecté, c'est là qu'il se décompose et produit du gaz. Il est recouvert d'une gigantesque bâche hermétique noire de 200 mètres carrés. C'est le méthane que Jim veut capturer, surtout pour l'empêcher de polluer l'air, mais aussi parce que traité, il peut devenir un carburant. Et Chris Mann, de l'entreprise Benaman, a justement la technologie pour ça.
On s'est rencontrés lors d'un événement organisé par l'université d'Exeter. Puis je suis venu à la ferme. J'ai vu le bassin que Jim avait installé et tout le gaz qui s'en échappait. J'ai demandé à Jim s'il savait combien de gaz il émettait. Il m'a dit 50 mètres cubes de l'heure. Ça équivaut à 150 000 livres sterling de méthane, une fois traité et vendu en tant que carburant. Donc mon entreprise a vite réalisé que si on faisait de cette ferme notre base opérationnelle, nous aurions un accès illimité à du gaz. Regardez là. On a extrait le gaz hier. On peut stocker l'équivalent de 2 semaines de production de gaz là-dedans.
C'est un processus scientifique automatisé qui traite le gaz pour en faire du biocarburant.
So this is the high-tech piece of kit.
productrice ouvre le flanc de ce qui ressemble à une caravane. Elle a été installée tout juste la semaine précédente entre l'étable et le bassin. Elle contient les équipements qui transforment le gaz en carburant.
Le gaz brut arrive ici. Il est fait de ces quatre composants. Il est traité là et perd la majorité de son contenu en eau et tout son sulfate d'hydrogène qui est une substance très toxique. Et avec notre équipement mobile, on sépare le CO2 et le méthane, puis on compresse le méthane. Notre premier prototype produit du méthane compressé qu'on utilise pour des véhicules de travail léger. Et on est en train de créer un mécanisme pour créer du méthane liquide pour les gros véhicules, comme des tracteurs qui sont très mangeurs de carburant.
Dans quelques jours, le gaz va être emmené directement sur le site d'une entreprise régionale de travaux de voirie en Cornouailles. Jim se sent plus ouvrier que fermier en ce moment, mais c'est une période de transition.
Notre lait n'était pas valorisé comme on aurait voulu, car même si nous faisions plein de choses pour préserver l'environnement, quand la citerne de lait quittait notre ferme, c'était le même produit que partout ailleurs. Donc quand on a décidé d'arrêter de produire du lait, on s'est promis qu'on produirait quelque chose d'autre, quelque chose dont le prix et donc nos revenus ne dépendraient plus du marché.
Quand on élève du bétail de manière intensive, il faut acheter de la nourriture pour les animaux et des fertilisants. On importe plein de choses sur la ferme, mais on n'exporte que le lait. C'est pour ça que c'est très difficile pour une ferme de faire du profit. Mais Jim va bientôt pouvoir utiliser des tracteurs qui roulent avec le méthane qu'il produit lui-même.
Aux côtés des bovins qui sont sur sa ferme 6 mois de l'année, Jim s'est lancé dans l'élevage de volailles.
Il y a 600 dans cette groupe.
Il y a 600 poulets ici. Ils ont 8 semaines et seront prêts dans 3 semaines. Ils seront abattus et préparés ici, sur la ferme, et seront vendus directement aux consommateurs, prêts à mettre au four. Pour notre production de gaz, on va récupérer les excréments et les viscères après l'abattage. La production de biogaz par la décomposition des abats est beaucoup plus grande que celle du lisier.
Et sur les terres de Jim, Chris développe encore une troisième source de production d'énergie, l'herbe. Des scientifiques étudient sur la ferme de Jim le meilleur moment pour couper l'herbe afin de maximiser sa production de gaz en se décomposant. Une nouvelle étape qui ne peut que bénéficier à l'environnement, dit Jim. Pour l'instant, il bénéficie des financements de la politique agricole commune européenne. Mais avec le Brexit, la PAC sera remplacée par des financements britanniques qui doivent récompenser les fermiers en fonction de leur impact positif sur la nature.
Je ne fais pas ça pour recevoir plus de fonds. Je suis fier de ce qu'on a réussi à faire. C'est une phase d'apprentissage pour l'instant, mais on avance vite. C'est très excitant. Chaque jour permet de tenter quelque chose de neuf.
6 fermes de Cornouailles doivent être équipées avec la technologie de Benhaman d'ici à 2 ans. Et à plus long terme, ce doit être plusieurs dizaines de fermes co-gérées par les autorités régionales qui devraient en bénéficier.
Nikol Pachinian joue sa réélection dimanche prochain en Arménie. Porté au pouvoir à la faveur de la révolution de velours en 2018, le chef du gouvernement par intérim fait l'objet de nombreuses critiques aujourd'hui. Une partie de la population lui reproche son attitude lors de la dernière guerre du Haut-Karabakh. En octobre et novembre dernier, lorsque l'Arménie a subi une lourde défaite face à l'Azerbaïdjan. Et si son parti est toujours le favori des sondages, il est lui menacé par son principal rival. Son portrait avec Anastasia Becchio.
Nikol traître, Nikol démission. Ces slogans se sont multipliés en Arménie après la signature par Nikol Pachinian de la déclaration sur la fin de la guerre du Karabakh avec la Russie et l'Azerbaïdjan en novembre. Un geste vécu par de nombreux Arméniens comme une trahison. Talin Terminassian, professeur d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase à l'INALCO.
C'est un facteur essentiel. Cette défaite du 10 novembre a été une humiliation collective pour l'ensemble de la société arménienne et le fait d'avoir été mené à la guerre par ce premier ministre rejaillit bien entendu sur sa popularité, sans compter que on ne comprend pas bien pourquoi dans un tel contexte il n'a pas donné une vraie démission au lendemain de cette défaite et pourquoi il s'est littéralement accroché au pouvoir.
Un pouvoir qu'il conquiert par la rue il y a 3 ans. En avril 2018, il prend la tête du mouvement de colère de la population qui réclame la fin de la corruption et de la pauvreté dans le pays. Mais il a déçu les attentes d'une partie de la population, constate la journaliste Sedam Avian, qui a publié une chronique de la révolution arménienne et qui suit la campagne pour les nouvelles d'Arménie.
On lui reproche en fait une mauvaise politique de cadre. On lui reproche de s'entourer d'incompétents, d'être incompétent, de ne pas faire appel aux compétences, y compris celles de la diaspora. Enfin, on lui reproche beaucoup, finalement, son mode de gouvernant et les cadres qui l'entourent. Il a déçu aussi dans la lenteur des réformes de justice qui correspondaient à une grosse demande de la population arménienne. Beaucoup de gens disent qu'il est resté l'opposant qu'il était. Il n'a pas endossé la stature d'un chef d'État. C'est ce que beaucoup lui reprochent. Dans l'exercice de la campagne électorale, il est visiblement très à l'aise. Donc c'est vrai que le costume de l'opposant, visiblement, lui convient.
Ancien journaliste d'investigation, devenu militant, puis élu député en 2012, Nicole Pachignan réussit en quelques semaines à chasser Serge Sarkissian du pouvoir. En avril-mai 2018, ses discours sur la place de la République à Erevan attirent des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, face à l'adversité, il est encore plus offensif, estime l'expert de l'Institut du Caucase à Erevan, Rant Mikelian.
Il sillonne les villes et les villages, il fait des déclarations radicales, il fait planer la menace de violence, de confrontation civile, il tente par tous les moyens d'échauffer son électorat. Il envoie ainsi le message qu'il ne se rend pas et qu'il est même prêt à contre-attaquer. Il menace aussi de punir tous les hommes d'affaires et les maires des villes et villages qui soutiennent ses concurrents.
Et parmi ses concurrents, le plus sérieux est son ennemi juré, l'ancien président Robert Kocharyan, qui a dirigé le pays de 1998 à 2008, année où les manifestations d'opposition ont été réprimées, faisant 10 morts. Manifestations auxquelles Nicole Pachignan a pris une part active. Taline Termination.
Kocharyan, il a été en quelque sorte l'artisan de la répression de 2008, au terme de laquelle Nicole Pachignan a fait des mois de prison. Et il est vrai que Nicole Pachignan avait juré la perte de Kocharyan, organisant d'ailleurs à grand fracas un véritable procès, dont l'issue d'ailleurs a tourné court il y a quelques semaines. Et donc il y a effectivement des règlements de compte. Les deux hommes se détestent, donc il y a effectivement sans doute des questions de vengeance personnelle. Mais on peut raisonnablement quand même espérer que des questions plus élevées touchant cette fois-ci à la raison d'État et à l'extrême urgence de la situation, notamment aux frontières, rentrent également en ligne de compte.
Si au lendemain de son acquittement en avril, Robert Kocharyan recueillait 5% d'intention de vote, aujourd'hui son alliance de parti Arménie talonne le contrat civil de Nicole Pachignan.
Les deux Corées réunies le temps d'une exposition en Suisse. Le musée des Beaux-Arts de Berne présente jusqu'en septembre des œuvres provenant de Corée du Sud et de Corée du Nord, issues de l'immense collection de l'ancien diplomate suisse Uli Stig. Jérémy Lange.
Les deux anciens leaders nord-coréens, Kim Jong-il et Kim Il-sung, tout sourire, l'un fumant tranquillement une cigarette, l'autre accolé à une chaise et qui regarde avec un plaisir certain une batterie de missiles cracher son feu dans un ciel rouge sang. Voilà pour le tableau. Il fait partie des œuvres de propagande récupérées par l'ancien ambassadeur de Suisse en Corée du Nord. Uli Stig a été en poste à Pyongyang de 1995 à 1998. Ce passionné d'art contemporain chinois en a profité pour ramener plusieurs peintures de propagande comme celle-ci. Un défi en soi puisque la Corée du Nord interdit l'exportation d'œuvres qui représentent ses leaders. C'était sans compter les talents de négociateur du diplomate qui réussit, premier sacrilège aux yeux de Pyongyang, à en acquérir et deuxième sacrilège, à les exposer à Berne à côté d'autres œuvres venues, elles, de Corée du Sud. L'idée, c'est bien sûr de faire dialoguer deux visions diamétralement opposées de l'art, issues de deux pays séparés par la guerre et par l'histoire, ou comment créer un semblant de coexistence quand 250 km de barbelés empêchent même de l'envisager. L'ironie de l'histoire veut que cette exposition ait lieu à Berne, à quelques kilomètres de là où l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait passé une importante partie de sa jeunesse dans les années 80. Environ 9 ans de ce que l'on sait. Kim Jong-un se fait alors appeler Unpak par ses camarades de l'école publique. On le dit fils de diplomate, un aspect de la vie du dictateur nord-coréen passé sous silence par Pyongyang dans sa biographie officielle.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, une émission avec le financement du programme IMCAP de l'Union européenne. Vous retrouvez le podcast sur rfi.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.